culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à toi, cher ami, qui nous tient compagnie en cette journée de sabbat. Comment vas-tu? Aujourd'hui, nous avons la compagnie de Romina et David. Salut!
Salut!
Bonjour!
Je vous remercie vraiment de votre présence. Merci de faire partie de cette fête. Pendant tout le mois de mars, nous aborderons des thèmes autour de la famille et du couple. Et pour cela, notre invité spécial est le pasteur Gilbert Greuzet.
Bonjour.
Gilbert, salut Gilbert.
Bonjour.
Gilbert est pasteur à l'église de Lausanne et à l'église de Clarens et il est aussi responsable du département de la famille pour toute la Suisse romande. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Gilbert?
Ben, ça veut dire que j'ai proposé des activités dans les églises pour réfléchir sur le thème du couple et de la famille, que parfois on a animé des séminaires, on a fait pendant de nombreuses années un camp pour les familles entre Noël et Nouvel An.
C'est magnifique.
Voilà.
C'est top. Et la semaine passée, tu nous as abordé un thème très, très intéressant sur le projet de Dieu pour les couples entre l'idéal et réalité. Et aujourd'hui, Gilbert, de quoi vas-tu nous parler?
Ben, on va prendre le même angle pour prendre le sujet, c'est-à-dire la différence entre l'idéal et la réalité. Le projet de Dieu, pas spécifiquement pour les couples, comme la semaine dernière, mais plutôt pour les familles cette fois.
Waouh, c'est top! Nous avons hâte de vivre ce moment et de découvrir tout cela avec toi. Cher auditeur, tu peux retrouver le programme de la semaine passée si tu le souhaites et ainsi ne rien rater de cette série. Reste avec nous car ce programme a été fait pour toi. Alors je t'invite de prier ensemble. Seigneur Dieu, toi qui vois toutes choses et qui nous connais si bien, je te demande de bénir chaque famille, chaque personne qui nous écoute. Apporte, Seigneur, la pureté, la paix, l'amour, la foi et la bienveillance dans les différentes familles sur cette terre. Amen.
Amen. Amen.
Merci Mildred pour cette prière pour bien commencer notre programme. Alors dans cette chronique, Dieu dans ma semaine, je voulais vous emmener avec moi 25 ans en arrière pour vous raconter les matins avec ma famille et Dieu quand j'étais petite. Alors, on habitait un peu loin de l'école, donc il fallait se réveiller assez tôt pour partir.
Ah, j'imagine.
Oui. Mais je me rappelle que peu importe l'heure qu'il était, on ne partait jamais de la maison sans avoir pris le temps de prier ensemble pour poser notre cœur, nos soucis, notre journée entre les mains de Dieu. Et souvent, on prenait aussi le temps non seulement pour prier, mais aussi pour lire les petites méditations quotidiennes. Vous savez, les petits livrets.
Ok, ouais, je connais.
Avec des méditations pour chaque jour. Et c'était drôle parce que pour mes parents, c'était vraiment important de vivre cela en famille. Et c'était même touchant parce que mon père arrivait toujours tard à la maison à cause de son travail. Donc, il se levait aussi plus tard. Mais nous qui devront partir, il nous demandait quand même toujours de le réveiller pour vivre ces moments de méditation et prier ensemble.
Pour que toute la famille soit réunie déjà
exactement,
en début de journée.
Exactement. Alors,
c'est sympa.
J'étais petite et même si je ne comprenais pas forcément tout ce qui se lisait dans ces petits livres de méditation, j'aimais ces moments de partage et cela a vraiment contribué à nourrir ma foi. Et certains disent que les enfants ne comprennent pas ce qu'ils entendent ou n'entendent pas ce qui se dit, ce qui se lit. Et en fait, non, c'est pas vrai. Je prêtais attention en tout cas et j'avais la foi d'un enfant, dans un Dieu qui était tout puissant, un Dieu qui était magnifique, qui était bon, qui ne nous laissait jamais tomber finalement. Après, j'ai grandi. Je suis devenue une adolescente. Et j'avoue qu'à certains moments, cela m'agaçait, ces moments... Surtout si on était en retard pour l'école. Donc, j'aimais pas arriver en retard à l'école. Hein. Et c'est juste pour vous dire qu'en fait, je ne vous parle pas d'un modèle parfait. Parfois, ce n'était pas toujours adapté. Parfois, je vivais ces moments comme une habitude, sans trop réfléchir, sans forcément y mettre mon cœur. Mais cela n'empêche, et c'est ce que je retiens, c'est que j'ai vraiment été touchée par ces prières, par la dévotion de mes parents, et surtout, c'est que j'ai grandi en sachant que c'était normal d'inclure Dieu dans ma vie, d'inclure Dieu dans mon quotidien, qu'il faisait partie intégrante de ma vie. Donc finalement, ces prières du matin, c'était une manière simple d'inviter Dieu dans ma vie, et j'y ai pris goût. Alors, à travers ces beaux souvenirs que je garde, le témoignage de ce vécu en famille avec Dieu, je voulais en tout cas, cher auditeur, à t'encourager à privilégier des temps spirituels en famille. Je pense que tout le monde gagne, tant les parents que les enfants. Alors si cela te donne envie, n'hésite pas à relancer ta famille, à leur lancer l'invitation de vivre des moments comme ça. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer.
Ah, ça c'est vrai, ça vaut le coup.
Alors moi, pour la promesse du jour, je voudrais partir sur un verset qui est Matthieu 5, 8, et qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Maintenant, on peut se poser des questions par rapport à ce verset, se dire « Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu ? Qu'est-ce que c'est avoir le cœur pur ? Qu'est-ce que c'est voir Dieu ? Et à quoi ça sert aussi ?» Parce que des fois, on est assez centré aussi sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire, et on ne prend pas le temps de penser à ce qu'on veut faire avec notre vie vraiment. Et je pense que quand on parle de cœur pur, on doit avoir en tête que le cœur, il a des soucis, le cœur humain, il a des défaillances, et qu'on ne sera jamais parfait. On est parfait grâce à Jésus, et la pureté du cœur que Dieu parle, c'est l'honnêteté. C'est savoir dire, là j'ai des tâches, là j'ai des problèmes, Seigneur, est-ce que tu les vois, est-ce que tu peux les enlever, et vraiment les guérir, pour qu'on puisse vraiment avoir une vie pleine, et que Dieu puisse travailler avec nous pour qu'on puisse avoir une vision plus large et plus globale de ce qui nous entoure pour en profiter vraiment.
En tout cas, David, pour cette belle promesse que tu as partagée avec nous, alors vivons ce moment d'adoration à travers le chant qui va suivre.
Dieu sauve. Tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu pars. Tu pars lorsque je tremble.
Dans ce temps où le mariage est fragilisé et qu'il y a beaucoup de familles fracturées et séparées, ça fait chaud au cœur de se laisser interpeller par des couples qui durent dans le temps et qui sont heureux malgré les combats quotidiens. Dans la Bible, nous trouvons des pistes, des conseils pour être heureux en famille et en société. J'ai la joie de partager avec vous et avec toi, cher auditeur, une rencontre que j'ai faite avec une famille soudée et pleine d'énergie.
Salut, je m'appelle Viviane.
Et je m'appelle Stéphane.
Nous avons trois enfants.
Ethan, 10 ans.
Logan, 7 ans.
Et le petit dernier, Owen, 4 ans.
Nous sommes une famille qui essayons de vivre en se basant sur la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de faire le culte chez nous le matin et le soir en lisant des histoires de la Bible avec les enfants, aussi des histoires avec des livres qui ont des vraies histoires.
Là, on lit l'histoire avec des anges. Et aussi le soir, le week-end, on lit l'histoire que Dieu utilise les animaux. Donc ça ils aiment bien, parce que c'est vraiment pratique. Ils adorent, ils racontent même à l'église ces histoires-là.
Les enfants, ils aiment aussi faire des mimes ou dans le culte en famille, de raconter des histoires en utilisant les Lego, les Playmobil. Et ça change un peu. Et là, l'histoire, elle est vivante pour eux. En ce moment, nous sommes en train d'étudier, de faire une semaine spéciale. C'est 10 jours de prière. Et on a un matériel en portugais. Et il y a des activités à faire avec les enfants. Et nous avons travaillé aussi les 8 remèdes naturels, où on a parlé de l'air, les sports, la nourriture. Et j'ai pris des choses comme les fruits, les légumes. J'ai pris des choses qui sont moins bonnes pour comparer, de l'eau. Et on a fait ça pendant le culte. On a parlé du projet de Dieu pour nous, pour notre santé, de Daniel. C'est l'histoire qu'on a dans la Bible. Et on a fait une liaison comme ça. Et pour nous, c'est important qu'ils puissent vivre la foi, qu'ils puissent apprendre par rapport à la Bible et mettre ça en pratique dans leur vie pour transmettre aux autres familles qui nous entourent ce qu'on vit, le projet de Dieu pour notre famille, pour chaque famille. Les copains qui ne sont pas de l'Église, ils ont du mal à raconter un peu. Pour ceux de l'Église, oui, c'est facile. Mais il y a le deuxième, il a eu une expérience avec un copain qui a dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Et il a dit pourquoi. Ils ont discuté un peu de ça déjà entre eux. Et c'était des enfants qui sont petits, mais qui ont parlé de ça. Mais c'est difficile pour eux encore de raconter. Ils voient déjà, les gens voient plutôt par comment ils agissent. Avec les copains, il y a une histoire avec un copain qui a répondu à une maman et un des garçons, il a dit « mais il ne faut pas parler comme ça, aux adultes c'est plutôt comme ça ». Qu'ils démontrent qu'ils aiment Dieu et qu'il faut traiter les gens avec respect, mais raconter les histoires, ils ont un peu de mal encore.
Ils font l'école à la maison, donc on a, surtout ma femme, travaille avec eux tous les jours ici à la maison. Donc ça permet aussi d'apporter cette partie, la parole de Dieu, plus facilement, parce qu'il y a moins de stress. Donc le matin, on peut vraiment prendre le temps, c'est quoi, une demi-heure de culte le matin,
ouais,
pour raconter l'histoire, lire les livres. Donc vraiment, ça nous aide à discuter, à parler de Dieu avec eux, moins de stress. Donc pour ça, c'est très bien. Le dialogue est très important, parce que le but, il faut qu'ils comprennent aussi. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs types de Bibles. On a les Bibles en BD, la Bible illustrée, donc on lit plusieurs fois, on a déjà plusieurs fois la Bible.
En français.
En français et en portugais. On parlait de langue. Et aussi, on profite des dates spéciales. Donc à Pâques, l'année passée, on a fait le Vendredi Saint. Donc on s'est habillé à l'époque, on a mangé le pain sans levain, les herbes. Donc on essaye vraiment d'être la Bible vivante.
Les enfants, ils sont bien communicatifs. Ils ont beaucoup de copains, même s'ils ne vont plus à l'école. Ils ont été scolarisés. Les enfants, ils sont beaucoup communicatifs, même s'ils ne vont pas à l'école traditionnelle. En faisant l'école à la maison, ils n'ont pas perdu le contact avec leurs copains parce qu'ils sont allés pendant quelques années. Et ils vont une fois par semaine dans une école. Et ils ont le contact toujours avec d'autres enfants. Ils font du sport. Ils aiment bien ça. Ils font en ce moment le multisport.
Pour Ethan, c'est le multisport. Et pour Logan, ils viennent finir la saison de hockey. Ils faisaient aussi la natation. Et Manon aussi, ils font la guitare.
Et le petit, il faisait la gym par enfant, mais en ce moment, on n'en a plus. Et ils fréquentent aussi les explotisants ou les scouts, pour ceux qui ne connaissent pas explotisants. Ils aiment bien étudier et apprendre. Nous, on a étudié les volcans, par exemple. On a pris des livres, on a discuté. Pendant les vacances, on a été en France. Dans un endroit, il y a des volcans. On a vu vraiment ce qu'on avait étudié. Ils aiment bien ça. On essaye de mettre en pratique pas que l'étude de la Bible, mais aussi tout ce qu'on étudie. On essaye de mettre en pratique. On va visiter, on va voir, vivre ce qu'on a travaillé dans la théorie.
Aussi, on aime bien être en dehors. Donc, on a été skier, on va faire de la marche, on va faire randonnée. Le premier confinement, on a fait beaucoup de marches dans la forêt, donc ça, ils aiment bien tout ce qui est activité. Et bien sûr, jouer avec les copains. Ça, ils veulent être ici à la maison le dimanche à 3h parce que tous ses copains se réunissent dehors. Donc, ils aiment bien tout ça. Il y a un conseil qu'on peut donner qu'on applique chez nous, c'est vraiment le temps en famille. C'est de partager quelque chose en famille, le temps, aller faire une promenade ensemble, passer le moment en lecture ensemble,
Jouer
ensemble, et pour que chacun puisse trouver vraiment sa voie, trouver son espace dans la famille. Avec 3 garçons, c'est pas simple, c'est vraiment très agité chez nous, mais c'est important vraiment que chaque parent, chaque enfant puisse trouver sa place et qu'il puisse vraiment communiquer, parler, et c'est avec du temps qu'on arrive.
Et quand on a ça, ce contact avec les enfants, on voit la différence quand on a... Voilà, parfois on n'a pas le temps. Et on voit la différence que ça fait quand on prend un moment de discussion ou de jeu, la façon que les enfants réagissent à quelque chose. Par exemple, s'ils ne sont pas contents, quand on prend le temps de discuter, de parler, pourquoi, de chercher ça. Et parfois, le fait qu'ils ne sont pas contents, ils sont dans leur coin, mais on prend le temps de jouer ou de lire, ça va changer. Ça va changer tout de suite. C'est, ouais, comme mon mari l'a dit, c'est pas parfait. Hein? Les garçons, ils se disputent parfois. Mais on doit trouver des solutions. Et on a vu chez nous la différence que ça fait quand on passe vraiment du temps ensemble, en jouant, en se promenant, comme il l'a dit avant.
Et encore un dernier point que nous, on a vu la différence avec les garçons, c'est que quand on va peut-être même une heure dans la nature, vraiment la forêt, la rivière, c'est vraiment l'apaisement. Ils sont très heureux. Même parfois, ils ne veulent pas y aller. Le grand, parfois, il n'a pas envie d'aller. Mais quand il va, il est très content. Et ça change aussi la relation entre parents et enfants. Et ça, je vous conseille, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en pratique. Parfois, il fait froid. Parfois, on n'a pas envie d'aller. Mais même pour nous, ça nous aide. Et je vous conseille vraiment de prendre du temps en famille.
Marcher dans son jardin, seul sans personne, il lui manquait quelqu'un avec qui partager la douceur d'un matin, le calme d'un soir d'été.
En un instant, le miracle s'accomplit. L'homme n'était plus seul, il avait devant lui un visage comme le sien. Le même sourire qui répondait au sien. Et Dieu leur offrit de pouvoir s'aimer. Il leur dit aussi de ne jamais oublier. Quand tu aimes, tu es patient. Quand tu aimes, tu vois l'autre autrement. Quand tu aimes, ce qu'il y a de plus de penser à notre avant.
Tu pardonnes tout et tu crois tout. ce qu'il était. Les gens sont trop pressés pour attendre le vrai. Certains osent encore se dire qu'ils vont tout faire pour retrouver l'harmonie établie par le Père.
Soyons comme quand ce jour touche devant Dieu, nous reconnaissions ô combien il a raison. Quand tu aimes, tu es patient. Quand tu aimes, tu vois l'autre autrement. Quand tu aimes, ce qu'il y a de plus important, c'est de penser à l'autre avant.
Tu pardonnes tout et tu crois tout, tu espères tout et tu supportes tout quand tu aimes.
Quand les forces viennent te manquer, en lui tu peux les puiser. Si tu as tout essayé, c'est sur lui qu'il faut compter. Lui seul peut tout transformer, car c'est lui qui a créé un amour si parfait pour l'éternité. Car il t'aime et il est patient. Il t'aime, il pense à toi constamment. Qu'il sait qui tu es vraiment. Il pardonne tout et il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. On voit combien il t'aime.
Quand tu aimes, tu es patient. Quand tu aimes, tu vois.
J'aime beaucoup cette chanson « Quand tu aimes » de Madison.
Elle est magnifique.
Oui, l'amour est indéniablement un don de Dieu. Quelle joie de le vivre en famille, quand c'est possible. Maintenant, il est temps de passer au temps de partage biblique avec Gilbert. On te laisse la parole.
C'est gentil, merci. C'est vrai que cette chanson fait référence à un amour assez idéal. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible propose aussi. Elle propose un idéal, mais elle ne ferme pas les yeux sur les réalités. On va prendre un premier texte pour lancer le sujet. Je vais demander à Romina si elle veut bien lire Genèse 2, le verset 24.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un.
Ils ne feront qu'un. Si on parle du couple, c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, on parle de cette unité conjugale. Mais on peut voir autre chose dans ce verset. Ils ne feront qu'un. Un bébé.
Ah, c'est original.
Oui, oui, parce que quand on prend deux personnes et qu'on prend la moitié de leur bagage de chromosomes, vous savez que c'est ce qui se passe, eh bien, ça reforme un nouvel être vivant. Et c'est ce nouvel être vivant qui va être leur enfant, leur passion, leur amour. C'était un peu chanté tout à l'heure. Donc, on voit que ça, c'est vraiment l'idéal. L'unité et la descendance. Et pensez donc, dans le récit biblique, le premier couple a eu le privilège inouï d'élever Caïn et Abel dans un cadre presque paradisiaque. On voit notre terre, qui a déjà plusieurs milliers d'années, qui semble encore magnifique par endroits. J'ose à peine imaginer la beauté des environnements naturels dans lesquels Adam et Ève ont pu faire grandir Caïn et Abel. Mais voilà, catastrophe, je vous dis pas. La Bible relate que cette première famille, dans un cadre absolument splendide, idéal, et aussi la première famille où il y a un meurtre fratricide. C'est-à-dire que Caïn, né d'Adam et Ève, vivant dans une terre tout proche du paradis, va tuer son propre frère. Et pourquoi ? Pour une question de religion, une histoire de sacrifice différent et différemment reçu par Dieu lui-même. Il y a de quoi trembler un peu. Ça nous montre en tout cas que la Bible ne ferme pas les yeux sur le fait que la famille, dès le tout départ, a été malmenée, elle s'est trouvée en face de grosses difficultés, et la Bible, comme je vous l'ai dit, ne le cache pas. On pourrait donner quelques exemples, je ne veux pas trop m'apesantir sur ce côté négatif, mais si je le développe, ce n'est pas pour rien. Je vous laisserai découvrir dans quelques minutes. D'autres exemples, Isaac, Rebecca et leurs deux fils, Jacob et Ésaü. Vous pouvez reprendre Genèse 27, l'histoire de cette bénédiction paternelle obtenue par Jacob de façon frauduleuse au détriment d'Ésaü, son frère. Si vous vous rappelez d'ailleurs, on se demande ce qu'il en aurait fait de cette bénédiction, puisqu'il avait été d'accord de l'échanger quelque temps auparavant contre un plat de lentilles.
Pas grande chose.
Pas grand chose, oui et non, parce qu'il semble qu'au retour de sa chasse, c'était ce dont il avait besoin pour retrouver des forces. Et ça a été un peu son argument, à quoi me servirait la bénédiction si je suis plus vivant?
Ça c'est vrai.
Alors voilà, mais quand même, on se rend compte qu'il y a déséquilibre, et c'est surtout le côté frauduleux mis en place par Jacob et Rebecca pour tromper Isaac. Et il va obtenir cette bénédiction dans des conditions assez épouvantable pour une famille, ça s'appelle le mensonge, ça s'appelle la tromperie, et pourtant c'est bel et bien là dans nos Bibles. Et plus loin dans l'histoire, on verra d'ailleurs que ce même Jacob aura d'autres difficultés familiales assez importantes à cause d'un fils qu'il préférait. On y reviendra la semaine prochaine d'ailleurs. Et puis, je ne veux pas trop allonger cette liste, mais on pourrait encore parler des méandres conjugaux et des difficultés paternelles d'un grand personnage de la Bible. Est-ce que par hasard vous devinez? Celui qui a eu des soucis vraiment, des méandres conjugaux et des difficultés paternelles, rien de moins que l'auteur de nombreux psaumes,
David.
Le roi David. Et la Bible nous raconte, sans masque, sans tricherie, sans masque, ça me fait un peu doute, le fait des difficultés qu'il y a eu dans la famille de David, dans d'autres familles encore. Et on pourrait sortir de cette liste en se disant, tout ça, c'était la période de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ça doit aller beaucoup mieux.
On espère. Pas,
mais... On espère, mais on n'en est pas sûr. Même la famille de Jésus n'était pas toute simple. David, est-ce que tu as le texte Matthieu 12, versets 46 à 50?
Oui. Alors, la vraie famille de Jésus. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire, « Ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta, « Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »
Alors, je ne sais pas, mais mettez-vous à la place de Marie ou des frères et sœurs de Jésus. Vous cherchez à le voir, et puis il lui dit, « Non, moi, je n'ai pas tellement besoin d'aller vous voir. Ceux qui sont mes frères et mes sœurs, ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon père. »
Pas bien l'accueil qu'on aurait souhaité.
Exactement. Et c'est même dire que dans la famille de Jésus, tout ne devait pas être si simple. Qu'est-ce qui a provoqué cette phrase? Les arrière-plans, là, on ne les a pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une relation de famille très évidente. On verra encore dans le Nouveau Testament un cas encore plus grave. Ça, j'ai laissé le texte à Mildred, mais enfin, c'est sans aucune arrière-pensée. 1 Corinthiens 5, verset 1. Écoutez ça. Je ne sais pas si vous êtes en chaussettes, mais si vous êtes en chaussettes, elles vont tomber.
Allons-y. On entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale. Et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père.
Enfin, une immoralité plus grande, même dans notre société d'aujourd'hui, on connaît à peine.
Ah si, c'est pas bien vu.
Alors, pourquoi cette série de catastrophes familiales dans nos Bibles?
Pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire.
Alors peut-être, on pourrait le voir comme ça, comme un enseignement par le négatif. Mais je crois qu'il y a des choses plus subtiles. La première, c'est d'éviter un piège, c'est de croire qu'avec Dieu, tout sera facile et simple dans nos familles. Vous l'avez compris, il y a des familles de croyants et non des moindres, je pense à la famille David, qui ont eu des difficultés gigantesques. Et ça ne les a pas empêchés d'avancer. Et puis, la deuxième raison que j'aimerais dire à ça, et ça me paraît peut-être encore plus important, c'est que si nous éprouvons des difficultés dans notre vie de famille, on pourrait se dire, mais par rapport au tableau idéal que j'ai entendu, ben moi j'y suis pas, je suis disqualifié, je suis hors jeu. Et ça, ça me semble essentiel de le rappeler. La Bible, la parole de Dieu, fait une place pour toutes les familles, même les plus dysfonctionnelles.
Heureusement, ouais.
C'est, enfin, pour moi, c'est un point très, très important. C'est pour ça qu'on a commencé avec ce volet un petit peu sombre, j'en conviens. Mmh. Mais c'est pour dire qu'il y a de la place pour toutes et tous. Maintenant, est-ce qu'on peut chercher quelques remèdes, quelques conseils dans la Bible pour nos familles?
Ah, ben, on espère. Allez, montre-nous.
On y va. Eh bien, dans les 10 paroles de Dieu, qui sont la base des 10 commandements, vous le savez bien, il y a 2 commandements qui concernent la famille. Le premier, c'est « tu ne commettras pas
d'adultère ».
C'est-à-dire que ta famille va être quelque chose...
Protégé, restreint, respecté.
On ne va pas commencer de s'enfuir de ce cercle pour aller vivre des choses ailleurs. On va rester dans ce cercle. Et puis, deuxième commandement, d'ailleurs, un des 2 commandements positifs.
Honore ton père et ta mère.
Ouais. Et ça veut dire qu'il y a une invitation à un grand respect, à quelque chose qui doit se construire dans la stabilité, dans l'unité, et en même temps dans une relation de respect. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, ira ajouter une idée, c'est qu'il est dit non seulement aux enfants de respecter leurs parents, mais il est dit aux parents de ne pas énerver leurs enfants.
Ne pas les provoquer.
Ne pas les provoquer. Donc, on se rend compte que la Bible cherche à construire une vie de famille en donnant des conseils positifs.
Et ça va dans tous les sens, dans les 2 sens.
Ouais, dans le sens parent-enfant et enfant-parent. C'est exactement ça. Alors, on sait qu'il y a des difficultés, on les a vues dans la Bible, on les connaît dans nos vies de tous les jours, dans nos vies réelles. Est-ce que la Bible donne des conseils en face des réalités, en face des difficultés? Eh bien oui, il y a un premier verset que j'aimerais vous proposer. Enfin, on va en prendre 2. Est-ce que l'un veut prendre Jean 13, 34 à chercher, et puis l'autre veut prendre Jean 15, 12? Et vous verrez que ces textes vont dans le même sens. Il y aura peut-être quelque chose d'un peu étonnant quand même. 13, 34, est-ce que Romina, tu l'as ?
34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres.
Merci, comme tu peux t'arrêter là.
Ok.
Et puis 15, 12.
Alors, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Voilà. Des commandements dans lesquels on dit aimez-vous. C'est pas si simple. Est-ce qu'on peut vraiment dire à quelqu'un aime comme un ordre? Ça paraît délicat. Pourtant, c'est un principe que la Bible met en avant, que Jésus met en avant 2 fois à 2 chapitres d'intervalle. Et il y en aurait même d'autres dans la première épître de Jean, etc. J'ai trouvé un livre assez excellent qui s'appelle, à propos du mariage, « Vous avez dit oui à quoi ?» Alors, bien sûr, la première chose qu'on se dit, on ne disait pas à quoi, c'est à qui.
Déjà un beau début quand même.
On est d'accord, mais l'auteur nous fait réfléchir sur l'idée que quand on se marie, on dit oui à un projet qui dépasse la terre d'ici et qui concerne notre relation avec Dieu, notre relation entre l'être humain et Dieu. Et on apprend dans le mariage à y vivre une découverte de l'autre. On y reviendra quand on parlera des couples. Et le deuxième grand conseil de la Bible pour les familles, alors, on peut prendre le texte de Colossiens 3, verset 13.
Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre.
Voilà.
Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui.
Donc, ça, c'est le conseil clé, le pardon. Pardonner, et c'est un autre auteur, une personne qui a écrit un magnifique livre de pensée sur la manière d'aimer, 52 clés pour vivre l'amour, Aruna Lipschitz. Elle écrit le mot pardonner avec un trait d'union. Pardonner. Et pardonner, elle dit, c'est comme donner par-delà ce qui est arrivé. Réfléchissez à ça. Donner de l'amour, continuer de donner de l'amour, par-delà ce qui est arrivé. Mais on sait qu'un verre cassé ne se recolle pas. Le passé douloureux ne peut pas être effacé. Et je la cite encore, Aruna Lipschitz, elle dit « En cas de faute, dire à l'autre « je me rends compte » et « je ne le ferai plus » est la seule façon de lui rendre l'envie de donner à nouveau, de pardonner.
Wow.
C'est beau. Je pense que pour les familles, c'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas avancer si on accumule les griefs et les rancunes sans les pardonner, sans savoir donner à nouveau l'amour, l'échange, l'interaction, les regards qui brillent, le sourire, l'intonation de la voix. Il y a des choses toutes petites comme ça. Mais quand vous rentrez chez vous, la voix de votre enfant ou de votre partenaire, de votre conjoint, vous savez tout de suite dans l'oreille si l'amour est là ou s'il n'est pas là.
Oui, on arrive à détecter s'il y a de l'énervement ou si l'ambiance est plutôt paisible.
Exactement. Et alors, comment faire pour retrouver cette belle ambiance? Eh bien, peut-être qu'il faut savoir demander pardon. Et demander pardon, c'est s'engager à ne pas récidiver la même erreur. Et comment sait-on quand on a pardonné? C'est quand on s'est remis dans une perspective de bonheur. Alors, c'est une expérience exceptionnelle, mais l'expérience du pardon découle exactement de ce que Dieu nous a laissé. Et quand je vous disais tout à l'heure que le mariage, c'était une possibilité, vous avez dit oui à quoi? Eh bien, à une découverte de ce qu'il y a entre Dieu et nous. Le pardon, c'est ce qu'il y a à la base du christianisme. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, dans nos familles, on peut apprendre à vivre cela. D'ailleurs, quand cela ne fonctionne pas, est-ce que vous n'auriez pas à l'esprit ou à la mémoire des familles qui vivent des situations bloquées, des espèces de situations sans issue, où on a l'impression que l'agressivité et la rancune ne fait que monter
Oui.
Eh bien, c'est parce que l'on n'a pas pardonné. Et là, j'aimerais citer encore le psaume 51. Je me permets de le prendre parce que je vais en prendre quelques extraits. Et au psaume 51... de lire depuis le verset 7, cette parole justement de David, qui avait eu de quoi demander pardon. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête, alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi.
Amen.
C'est l'expérience du pardon que David a pu vivre après des expériences vraiment catastrophiques. Que l'amour fraternel demeure, lit-on encore dans Hébreux 13 au verset 1, qui nous invite à persévérer dans l'amour. Ce sont finalement les deux grands conseils de la Bible. Aimez, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous l'avez lu tout à l'heure. Et puis, pardonnez, ayez la capacité de laisser de côté ce qui a mal été, et engagez-vous dans quelque chose de neuf. Et je crois que c'est les grandes lignes de ce que la Bible propose pour nos vies, pour nos familles. Dans le concret, je vous propose de voir un exemple formidable, mais pas maintenant, parce qu'on verra l'exemple d'une réconciliation entre frères, alors que ça semblait perdu, tellement il y avait d'agressivité cumulée. Et puis, pour les conjoints, eh bien, on verra aussi prochainement quels conseils sont adressés aux époux par l'apôtre Paul.
Thank you.
Alors maintenant, la question, qu'est-ce que les artistes font pour nous aussi, en parlant un peu de Dieu? Parce que l'art, c'est une belle manière aussi de transmettre la parole.
Ils nous font rire.
Ils nous font rire, ouais. Des fois pleurer aussi. Ils s'agent avec nos émotions. Et ça, c'est cool aussi, je trouve. Et par rapport à ça, je voulais vous présenter un film. Mais d'abord, je voulais poser quelques questions pour qu'on puisse identifier un petit peu aussi.
Pas trop difficile, alors.
Non, pas trop difficile. Enfin, j'espère. Comme il disait Gilbert, dans la famille, on a souvent des conflits. On a souvent des problèmes, des choses, des malentendus peut-être, des désaccords. Et ça, je pense que ça part sur la vision qu'on a des choses. Alors, une des questions, c'est est-ce que vous avez déjà eu des doutes par rapport à certaines choses? Ou non, jamais?
Ça nous arrive deux fois.
Oui, quand même.
Et se poser des questions, c'est souvent bien.
Ben oui, ouais. C'est normal.
Ouais, ouais, c'est... Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que vous avez déjà eu des doutes et que votre conjoint ou est-ce que vos enfants ou quoi que ce soit avaient la conviction de savoir? Mais que pour vous, c'était pas... Vous doutiez et l'autre disait non, mais c'est comme ça.
Oui, ça arrive, ça arrive.
Ou que vous disiez non, c'est comme ça et que l'autre, il vous croyait pas. ça m'arrive souvent.
Et voilà,
ça
sont les conflits.
c'est que j'ai souvent raison, mais l'autre, il ne le sait pas encore. Alors...
Ah, oh là là.
Non, bah, aujourd'hui, je voulais vous présenter un film justement qui parle sur ce thème. C'est un couple dont il y a le mari, c'est un journaliste, et la femme, elle est croyante. Et lui, il ne croit pas en Dieu.
D'accord.
Il veut montrer que Dieu n'existe pas. Il veut le prouver. Parce que sa femme commence à parler de Dieu. Après, c'est clair, il y a les enfants. Si un enfant, qu'est-ce qu'on lui apprend? Est-ce qu'on lui dit qu'il y a Dieu? Est-ce qu'on lui dit qu'il n'y a pas Dieu? Et ça crée, je pense, un gros conflit aussi dans le couple, parce que c'est vraiment une base. Et ça va changer aussi beaucoup de choses par rapport à comment on fait les choses. Si on a Dieu ou si on n'a pas Dieu. Et donc, il se détermine à prouver que Dieu n'existe pas.
Eh ben.
Et j'ai trouvé super intéressant. En plus, ce film, c'est vraiment un film que... C'était un moment où j'avais beaucoup de doutes comme ça, je me posais beaucoup de questions. Et puis, un ami à moi me l'avait envoyé, juste à ce moment. Je trouvais vraiment cool parce qu'il va vraiment dans plein d'endroits scientifiques, il parle avec des philosophes, il va voir l'histoire, il parle avec des croyants, il fait pas semblant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre par rapport à ça aussi, c'est quand on veut savoir quelque chose, est-ce qu'on y va vraiment ou est-ce qu'on fait semblant par peur d'être déçu de la vérité ou d'être
et de rester superficiel.
Voilà, de rester dans cette fausse réalité qu'on s'est créée, dans cette bulle. Par peur de l'éclater et dire ah, en fait j'avais tort et d'avoir été bête pendant un moment parce qu'on savait pas. Mais c'est Einstein, je crois, qui disait vaut mieux d'avoir l'air bête pendant deux secondes que toute sa vie.
Mmh. C'est vrai.
C'est mieux de venir parler, dire les choses, apprendre. Et de toute façon, comme on disait avant, on a l'éternité pour apprendre.
Mmh.
Et ce film, d'abord, le film s'appelle Jésus l'enquête. Franchement, super bien, je le recommande. Et il est inspiré par le livre « Jésus, la parole est à la défense », écrit par Lee Strobel, qui est le journaliste qui voulait prouver que Dieu n'existait pas.
C'est bon, tu nous as convaincus, on va voir ces films.
Et voilà, donc c'est ça, c'est une histoire vraie et très intéressante, très prenante. J'aime beaucoup parce que le personnage principal qui est pas croyant, il est super tenace dans le voulant prouver que Dieu n'existe pas. Et ça me plaît parce que dans un sens, moi, je voudrais qu'il croit. Mais dans un autre sens, j'aime qu'il vive sa vérité sans faire semblant de « Ah non, mais peut-être. » Alors, comme on disait avant, de rester dans sa bulle. Il y va vraiment acharné pour trouver la vérité. Il ne fait pas semblant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu.
Et si c'est un journaliste, je pense qu'il est expert dans la manière de mener une enquête. Et on peut penser que son enquête est sérieuse, elle est approfondie, oui. Elle est...
Ouais, ouais, non, on dirait un thriller.
Mais c'est un professionnel. Là,
ouais. Ça. Non, et puis il pose plein de questions, il y va, ouais. Non, c'est cool. Comment il fait le truc méthodiquement aussi, c'est bien fait, ouais. Alors là, je vais vous laisser avec la bande-annonce, et je vous laisse profiter.
Et si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais?
La foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre.
Tu veux vraiment me donner ce flingue?
Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette.
J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi?
Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible.
Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix?
Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion.
C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité.
Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie.
Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job!
Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine.
Wow, ce film a l'air vraiment très intéressant.
Alors, je voulais vous lire le verset Jacques 5,16 qui dit « Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. » Là, moi, ce verset, il m'inspire beaucoup à vouloir le bien pour l'autre, en fait, à dire que c'est pas parce qu'il pense pas comme moi que je veux pas son bien. Apprendre à prier pour l'autre, même si on a des choses qu'on pense et qu'on voit que l'autre pense différemment, prier pour que soit, bon, pour que la vérité nous soit révélée aux deux, soit pour confirmer la sienne, et nous apprendre à nous, soit pour nous confirmer à nous, et apprendre à l'autre. Mais ça nous apprend aussi que quand on prie pour quelqu'un, je pense que c'est quelque chose d'important souvent, on prie pour les gens en disant « Seigneur, aide-le, change-le ». Et ça peut arriver qu'on ait une certitude et qu'elle soit vraie, et que Dieu va vraiment transformer cette personne dans le bon sens. Quelque chose qui est joli aussi quand on prie pour l'autre, c'est que Dieu souvent nous ouvre aussi les yeux pour voir comment on comprend l'autre. Mm-hmm. Pour dire « Ok, il a peut-être ça dans le cœur, il a vécu ça comme ça ». Peut-être je ne suis pas totalement dans le juste non plus. On va avoir plus de compassion, plus de choses. On va comprendre mieux aussi. Peut-être qu'on va voir mieux nos erreurs aussi. Et du coup, avec ça, je pense que c'est important de prendre ce verset et de le vivre vraiment. De dire, confessez les choses et priez les uns pour les autres. Et n'oubliez pas de confesser. Parce que si moi, par exemple, je fais du mal à Gilbert, je pense que ça va lui faire plaisir que je vienne et que je lui dise, écoute, là, j'aurais pas dû, excuse-moi. Ou je ne pensais pas que ça allait avoir cet effet sur toi. Et qu'on puisse vraiment créer une relation pour grandir et pas rester à un niveau, comme on a dit, que la rancœur, elle monte, et à la fin, ça pète, quoi. C'est comme ça que ça commence les guerres.
C'est vrai.
Et voilà. Alors, je voulais vous inviter à prier. Je demandais à Gilbert s'il voudrait me faire ce plaisir. Merci.
Notre Père, notre Dieu, nos familles sont vraiment un terrain d'expérimentation où on peut, comme vient de le dire David, chercher à pardonner, à confesser nos fautes, à te prier pour les membres de notre famille et de voir si tu vas peut-être pas tellement les changer eux, mais me changer moi-même. Seigneur, je te remercie d'avoir créé la famille parce que nous pouvons y apprendre tellement de choses. Et si on peut y apprendre à aimer et à pardonner, eh bien peut-être nous aurons comme un avant-goût du ciel. En tout cas, Jésus est venu nous montrer ce chemin, il l'a enseigné et j'aimerais te demander de faire que son exemple serve à toutes nos familles. Seigneur, oui, donne-nous la force d'entrer dans ton projet pour les couples et pour les familles. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Bon, Gilbert, tu nous as bien fait comprendre que c'est un défi de vivre en famille parce que forcément, la communication n'est pas toujours évidente. Et je voulais en tout cas vous lancer un défi. Celui de ne pas laisser trop bouillir les choses. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir des désaccords, des petites ou grandes choses qui viennent empoisonner vos relations, et que les unes après les autres, ça commence à bouillir, Et c'est à ce moment-là que les relations commencent à se dégrader. Alors je voulais vous inviter à remettre tout cela entre les mains de Dieu, comme nous venons de faire en fait. Nous venons de prier pour cela. Et c'est ce que je vous invite à faire. Si tu vis un conflit dans ta famille, avec ton frère, avec ta sœur, ton père, ta mère, ton conjoint, prends le temps de prier, de remettre à Dieu ce conflit. Il va t'aider à poser les mots s'il en faut, à apaiser ta colère, à t'inspirer, à te guider, à trouver les outils qui t'aideront justement à arriver à la réconciliation. Parce que je crois sincèrement que Dieu parle en notre cœur et qu'il veut bénir nos familles, ouvrir nos yeux, nous nettoyer de toute mauvaise pensée, intention et de nous aider à agir bien. Alors voilà, confie tout cela au Seigneur, même si cela ne semble pas facile parce que cela demande une certaine maîtrise de soi, oui, je sais bien. Mais voilà, là aussi, Dieu peut nous aider et nous accompagner sur ce chemin, si on le laisse. En tout cas, même si nos familles ne sont pas parfaites, et parfois loin de l'idéal, prenons-en soin quand même. Ayons à cœur de faire régner la tolérance, la bienveillance dans nos foyers. Laissons-le être actif dans nos vies, dans nos défis, et laissons Dieu régner dans nos cœurs et dans nos foyers.
Amen. Amen.
Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout ton âme est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dont la ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
Oui, que Jésus vienne régner dans nos vies. Je vous remercie chacun pour ce moment de partage. Et un grand merci à toi, Gilbert. Merci beaucoup pour ce rappel biblique qui nous encourage à mieux vivre en famille. Nous aurons aussi l'occasion de te retrouver samedi prochain pour parler de thèmes tout aussi intéressants, n'est-ce pas?
Si vous le voulez bien, volontiers.
Tu seras le bienvenu.
Merci.
Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que ce moment que nous avons passé ensemble a été pertinent pour toi. Je te souhaite de la joie en famille et que tu puisses vivre des moments magnifiques et enrichissants dans ton foyer. La vie de famille peut parfois être un combat, mais elle peut aussi être un beau jardin d'où émane un bon parfum. Continuez à vous encourager mutuellement et cultivez l'amour chez vous. Profite bien de cette journée de sabbat et à bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.